Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité ce matin est Valérie Tabar, elle est conseillère régionale écologiste et autonomiste, membre du groupe Braise à Glaise. Elle est venue jusqu'à nous en direct au micro de Bretagne 5, je l'en remercie, bonjour.
Bonjour.
Alors Valérie Tabar, on va parler d'écologie évidemment ce matin, on va parler d'agriculture également, mais j'aurais voulu vous entendre sur ce qui se passe au Proche-Orient avec ce conflit qui a dégénéré en Israël avec cette attaque terroriste du Hamas en Israël, ces images terribles qui nous sont parvenues, qui nous parviennent encore. Est-ce que ça appelle une réaction ferme de la classe politique française et même régionale d'ailleurs?
Oui, tout à fait. Le mouvement politique dans lequel j'appartiens, hein, Ensemble sur nos territoires, a fait un communiqué disant fermement notre critique très ferme à l'attaque terroriste du Hamas, près d'Israël. On est tous, je pense, très tristes, très meurtris vis-à-vis de cette agression, parce que on sait très bien que ça nous éloigne du processus de paix, une capacité de dialogue et de reconnaissance de deux États souverains. Et ce qui est dramatique, c'est que on a une organisation qui est avant tout, il faut pas se cacher sur la nature de cette organisation, est avant tout terroriste, quoi. C'est-à-dire qu'elle vise la destruction de vies humaines, en l'occurrence les Israéliens. Elle nie complètement l'État israélien, mais elle est complètement dans un objectif de destruction des vies humaines. Donc bien loin en fait de la cause en fait palestinienne. En tout cas, elle ne la sert pas bien, et donc on condamne fermement cette attaque terroriste. Et c'est dramatique pour ce qui se passe pour les Israéliens. Pour tous les otages, les exécutions. Et puis c'est dramatique aussi pour le peuple palestinien, avec les Gazaouis aussi, qui sont encore plus pris en otage aujourd'hui. Et rien ne justifie, même si nous avons un gouvernement, Netanyahou, aujourd'hui, qui est d'extrême droite, est fasciste. Et en fait, ça doit interpeller, je crois, la communauté internationale, et donc tous les responsables politiques, vraiment réengager le dialogue politique pour faire en sorte aussi que forcément les Palestiniens, les Israéliens vivent en sécurité, et que les Palestiniens aussi ne subissent pas toutes les humiliations qu'ils subissent, parce que la colonisation de territoire a toujours continué. Et ça, j'entendais un professeur de sciences politiques de Paris hier qui resituait bien le fait que la communauté internationale a peut-être pensé que voilà, il y avait une certaine une situation un petit peu presque neutralisée. Et forcément, bien sûr que dans la société palestinienne, il y a une réaction. Mais ce qui est dommage, c'est que ça vienne appuyer aujourd'hui une organisation terroriste.
On a entendu l'Union européenne s'exprimer, évidemment, autour de ces horribles attaques et de ces actes terroristes. L'Union européenne qui, en un premier temps, a dit, on va suspendre notre aide à la Palestine, et puis qui, ce matin, fait un petit peu un revirement, un virage à 180 degrés pour dire, finalement, on va continuer à aider la Palestine, avec quand même ce danger de fournir de l'argent, des moyens à des groupes terroristes tels que le Hamas.
Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut être extrêmement vigilant à ce que la destination aille vers les populations civiles. C'est toute la difficulté. Mais bien sûr qu'aujourd'hui, il faut aider le peuple israélien touché dans sa chair, mais aussi aider les civils palestiniens qui sont eux-mêmes touchés aujourd'hui.
Alors, on va évidemment continuer à suivre ce qui se passe en Israël sur l'antenne de Bretagne 5 au long des flashs et des journaux d'information. Alors nous, on va essayer de parler, Valérie Tabar, ce matin d'écologie. C'est pas facile quand l'actualité est aussi dramatique. Moi, je voulais vous entendre sur l'écologie. Est-ce que aujourd'hui, on doit aller vers une écologie qui sanctionne, qui fait peur, ou plutôt donc une écologie un peu punitive, ou plutôt vers une écologie qui explique, qui fait œuvre de pédagogie.
Vous avez raison hein, de situer que c'est pas facile de passer d'un sujet à l'autre.
Voilà.
Hein, quand on a ce sujet voilà, d'Israël, de l'Ukraine hier et de toutes les agressions et le terrorisme à travers le monde. Bon, alors pour revenir au sujet, aussi quand même important, moi je crois que l'écologie des petits pas ne suffit pas. On ne comprend pas bien ce que veut dire Macron par une écologie à la française. Qu'est-ce que ça veut dire et quand on voit le manque d'ambition hein, de ce gouvernement dans la prise en charge des problèmes écologiques, donc il y a vraiment de quoi s'interroger et s'inquiéter. Je pense que le levier réglementaire est très important. Mmh. C'est-à-dire, oui, à des moments donnés, ça n'est pas possible. Mais, et par exemple, là, moi, je porte un vœu à la session régionale qui est de demander à l'État français d'avoir une position très claire, très ferme, et ça se passe là vendredi, jeudi ou vendredi.
Conseil régional de Bretagne,
voilà,
je précise pour nos auditeurs.
Voilà, c'est ça, à la session régionale du Conseil régional, donc c'est de faire voter l'Assemblée régionale sur un vœu qui demande à l'État français d'avoir une position ferme, qui est de porter une voix d'opposition à la proposition de la Commission européenne sur le renouvellement de l'autorisation du glyphosate pour 10 ans. Donc oui, moi je crois qu'il faut quand même assumer ce levier réglementaire, mais absolument à côté, en parallèle, mettre tous les moyens, et donc de l'argent, pour accompagner l'agriculture à se passer des pesticides, et on a les alternatives.
Parce qu'il y a une inquiétude, hein, pardonnez-moi Valérie Tabar, mais il y a une inquiétude des agriculteurs qui se disent, voilà, si demain je ne peux plus traiter, comment je fais ? Ils se sentent un petit peu pris entre deux feux, d'un côté les industriels qui leur demandent de la rentabilité, hein, n'ayons pas peur du mot, et avoir une démarche écologique à côté.
Oui, mais vous voyez, moi je discutais avec un agriculteur il y a encore quelques jours qui me dit, mais moi ça fait 20 ans que je fais sans, alors il est en bio, je fais sans glyphosate, alors qu'est-ce qu'on nous raconte ? Donc non, je crois qu'il y a vraiment une construction sur le fait qu'on ne pourrait pas. Par contre, parce que les alternatives existent, parce que voilà, faire sans glyphosate, il y a des tas d'agriculteurs qui le font, en bio ou pas en bio. Hein, donc voilà.
Oui, ça marche en conventionnel aussi.
Complètement. Mmh. Et bon, par contre, moi, je milite hein, pour qu'il y ait une sortie des pesticides de manière générale, parce que c'est tous les scientifiques qui sont indépendants des intérêts économiques, des intérêts des industriels et donc des marchands de pesticides sont très, très clairs. Et moi, mon vœu s'appuie sur ça, sur l'avis de l'INSERM, du CIRC, donc du Centre international de recherche de cancer, et l'INSERM, institution scientifique de, quand même de renommée internationale, sur le lien entre des maladies et l'usage des pesticides. Donc, les alternatives existent. Il faut pouvoir sécuriser, accompagner les agriculteurs, sécuriser financièrement pour que le fait de sortir des pesticides et donc du glyphosate, voilà, eh bien, ils puissent être sécurisés quand une culture, ben voilà, elle peut moins réussir, et mettre des moyens d'accompagnement pour changer les pratiques culturales. Donc, en effet, pour moi, c'est clair, il faut que le levier réglementaire soit activé et dans le même temps accompagner financièrement pour pas laisser les gens dans la panade. Mais il est temps aussi vraiment de dire non, on fait autrement et avoir un langage très clair sur ça.
Alors, on risque de vous opposer le fait qu'il y a un modèle agricole breton, qui est-ce qu'il est, et que ça risque peut-être de le déséquilibrer ou de le changer. Est-ce que justement, il faut aller... j'ai posé la question déjà à plusieurs invités au micro de la matinale. Est-ce qu'il faut le changer, ce modèle agricole breton ?
Ah ben, il faut complètement le changer, bien sûr. Il faut le transformer. Alors, c'est pas, on passe pas du jour au lendemain. Hein, c'est comme un paquebot. Voilà, mais il faut vraiment lui faire prendre une trajectoire de bifurcation très importante, je dirais même radicale, mais au sens du beau mot de la radicalité, qui est de la racine. Parce que à la racine des choses, y a aujourd'hui, on a un vrai problème de santé par rapport aux pesticides, production, de volume en Bretagne, et donc avec une production qui n'est pas liée au sol, aux capacités hein, des sols, de l'eau, de l'air. Donc pour nous, il faut revenir à la capacité de production de la Bretagne. Et puis c'est un modèle aussi où on ne peut que constater en fait une précarité agricole, une disparition du nombre d'agriculteurs. Donc sur le plan social, ce n'est pas un modèle vertueux. Alors, il a rendu ses offices. Hein, il y a aussi de belles réussites. Il y a aussi, moi je le note, hein, une expertise, une intelligence. Par exemple, chez des producteurs de porc, il faut une technicité. Mais tout ça, il faut pouvoir la réutiliser, la reprendre justement sur la complexité qu'il faut avoir maintenant dans la conduite agroécologique des agriculteurs. Donc moi, je pointe pas du doigt avec injonction en disant vraiment les agriculteurs sont des pollueurs et sont vraiment des mauvais professionnels. Au contraire, je note en fait toute la richesse aussi de savoir-faire, d'intelligence, mais qu'il faut aujourd'hui réorienter vers la complexité d'une conduite agroécologique et redire que la Bretagne, sa capacité en fait de production, elle tient quand même à des importations et donc à sa responsabilité en termes de production de gaz à effet de serre par le soja par exemple qui déforeste l'Amazonie. Donc ça, il faut complètement assumer notre responsabilité planétaire. Je crois que je l'ai déjà dit ici, dans le fait qu'il faut revenir à une production liée au sol, liée à ses capacités et la souveraineté alimentaire de la Bretagne, permettez-moi de l'interroger, quand justement elle repose sur largement des importations pour son bétail.
Alors on parlait de précarité, vous avez lâché le mot précarité en ce qui concerne le nombre de petits agriculteurs et rien de péjoratif dans le mot petit évidemment, mais face à de grosses fermes qui souvent ont tendance un peu à s'étendre, c'est un débat aujourd'hui en Bretagne et pourtant de jeunes agriculteurs veulent s'installer, veulent continuer à parfois à reprendre aussi la ferme des parents, des grands-parents. Est-ce qu'il faut les aider ces jeunes agriculteurs? Est-ce que la région qui a déjà une politique volontariste en la matière doit faire plus, doit faire mieux, parce que jeune agriculteur, ça veut dire aussi avoir des terres, et c'est pas toujours simple.
Ah oui, bien sûr qu'il faut aider. Alors, Loïc Chesnais-Girard, en effet, vous avez accueilli Arnaud Lécuyer, je crois, la semaine dernière, hein, vice-président de l'agriculture, donc porte quand même un objectif d'installation, de renouvellement des générations, donc on salue. Pour nous, l'objectif n'est pas assez élevé, puisqu'on parle de 1000 installations, donc ça veut dire qu'on ne vient pas contrecarrer le déclin des agriculteurs. Par exemple, il y a un sujet qui m'importe et je vais le travailler encore plus dans les prochaines semaines, sur la question du bocage. Mmh. On met beaucoup d'argent public dans la plantation, hein, à travers Bresse Bocage. Mais le problème, c'est qu'on déconnecte le bocage de l'activité agricole. Et ce sont souvent, et c'était comme ça que c'était pensé la politique bocage en Bretagne, malheureusement, c'est que les maîtres d'ouvrage sont les collectivités qui viennent planter. Et donc, ça veut dire que ça déconnecte, en fait, de la responsabilité de l'agriculteur, de son activité agricole. Or, en fait, aujourd'hui, si on a un recul du bocage, c'est parce qu'on a un recul de l'élevage et des installations à taille humaine. Donc, en fait, il vaudrait mieux orienter l'argent public encore plus fortement vers l'installation, parce que c'est ça, vers des installations nombreuses, parce que c'est ça qui va permettre le bocage. Moi, j'étais beaucoup éclairée sur cet aspect-là par l'association Terre et Bocage, qui est implantée sur mon contour, et avec Thierry Guéhenneux, qui en est un des animateurs.
Voilà, associer les agriculteurs, les jeunes agriculteurs aussi, qui s'installent à la plantation, au renouvellement de ce bocage qu'on a un petit peu oublié et voire détruit, il faut bien le dire. Alors, il y a aussi, je disais, les terres. Hein, on parle beaucoup des terres aujourd'hui. C'est un vrai débat. Les grosses fermes essaient de préempter un petit peu toutes les terres, ce qui laisse un petit peu de miettes aux petites fermes. Est-ce que là aussi, on peut imaginer que la région joue le rôle, sinon de facilitateur, peut-être essaie de trouver un équilibre, essaie d'apporter sa pierre à l'édifice pour que tout le monde puisse cultiver.
Oui, alors il y a le projet, et donc on demande à voir, hein, le projet de monter une foncière au niveau agricole, qui permettrait de stocker des terres que la collectivité régionale avec les EPCI voilà, donc font de cette foncière pour pouvoir acheter des terres. Parce que l'important, c'est aussi à des moments donnés de pouvoir stocker des terres pour pouvoir après les mettre à disposition pour l'installation. Parce que parfois, entre le cédant qui cède sa ferme, et l'installation, eh bien, il n'y a pas toujours concomitance en fait dans ce même temps. Donc, d'où l'importance de stocker des terres pour pouvoir les remettre à l'installation pour pas qu'elles partent à l'agrandissement. Par ailleurs, pour moi, il faut vraiment avoir aussi une politique de régulation. Hein, à un moment donné, il faudrait, on pourrait parler du dossier santé aussi, hein, moi, sur lequel je vais intervenir la régulation pour implanter des professionnels de santé. Bah, de la même manière, là, il y a besoin en agriculture de régulation, de plafonner à un moment donné, de dire stop. Il y a assez de capacité de moyens de production de foncier pour telle unité agricole, il faut en laisser pour d'autres. Alors ça permet de raccrocher à une autre de nos revendications et qui avance sur le plan du Conseil régional et de manière transpartisane, c'est l'autonomie des régions, c'est l'autonomie de la Bretagne.
Vous m'avez devancé, Valérie Tabar, j'allais vous poser la question, puisque je le disais en commençant, vous êtes conseillère régionale écologiste et autonomiste. Alors, Loïc Chesnais-Girard l'avait dit à l'antenne de Bretagne 5 il y a quelques années au micro, l'autonomie n'est pas un gros mot, il a répété depuis, voilà, ça fait un peu florès dans la presse, même nationale, l'autonomie n'est plus un gros mot, c'est aussi un espoir, on pourrait dire, aujourd'hui.
Ah ben complètement, c'est un espoir parce que si on veut sortir des crises et vraiment résoudre les problèmes quotidiens des Bretons et des Bretonnes sur la question du logement, hein, sur la question de la santé, alors c'est très très important de donner l'autonomie à la Bretagne, et pas qu'à la région Bretagne, pas qu'à la collectivité régionale, mais à la collectivité régionale et aux collectivités en infra-régionales, aux départements, aux communautés de communes, aux communes. Ça, c'est très, très important. Donc, nous disons, hein, le contrat Zaglaise.
Une autonomie, en fait, à tous les échelons, on pourrait presque dire décisionnaire.
Bien sûr, mais c'est important, et ça veut dire que c'est faire advenir en France un modèle que d'autres pays ont. Hein. Les régions autonomes existent en Allemagne, en Espagne, etc. Donc il faut resituer qu'on est dans un pays jacobin, centralisateur, et à chaque fois qu'on parle autonomie, donc là aussi il y a de la pédagogie à faire, hein, parce que moi je vois bien quand j'ai pu dire que j'étais dans un groupe autonomiste, on voit bien que c'est pas dans la grammaire. Hein, c'est pas dans la grammaire parfois de mon entourage.
Ça fait un peu peur.
Oui, parce qu'on est tellement imprégné culturellement de ce schéma jacobin centralisateur que la République, une indivisible, serait menacée à partir du moment où des régions ont de l'autonomie, que tout de suite on apparente l'autonomie à un séparatisme, à une indépendance, ce qui n'est pas le cas. Mmh. C'est vraiment bien inscrit dans un cadre fédéral de la France fédérale et de l'Europe fédérale. Et l'autonomie, ça veut bien dire, hein, l'autonomie, ça veut dire aussi avoir la capacité normative, c'est-à-dire de faire des lois et des décrets. Donc vraiment activer ce levier justement normatif, réglementaire, ce qui est important. Mais bien sûr, dans un cadre fédéral où l'État garde des fonctions régaliennes et de péréquation et de solidarité, bien sûr.
Oui, parce qu'on peut imaginer que si l'autonomie arrive, on ait des concurrences entre régions, des régions qui se développent mieux que d'autres. Voilà, c'est des faits de territoire. Voilà, là aussi, il faudra quand même que l'État soit là pour essayer de garantir l'équilibre.
Ah oui, mais Christian Guillon-Var, donc mon collègue de l'UDB au sein du groupe Brézaglaise, hein, qui a participé au groupe autonomie transpartisan avec Azélis Gouez d'Ensemble sur nos territoires, qui est aussi mon autre collègue, resitue bien que le fédéralisme, il repose sur trois piliers. Sur l'autonomie, les coopérations et les solidarités. Donc la philosophie fédéraliste, hein, intègre bien la notion de coopération, c'est pas le repli sur soi, la coopération avec les autres territoires et les logiques de solidarité. Voilà, il n'y a pas de peur à avoir. Oui, l'autonomie est un beau mot. Et nous disons pas plus d'autonomie, l'autonomie.
On va parler aussi de ce qui préoccupe les Bretons, plus largement les Français, mais on est aujourd'hui dans une période très compliquée avec cette inflation qui continue, bon an, mal an, sinon de se stabiliser, mais qui monte quand même un petit peu. Ça se traduit par des difficultés à se loger, des difficultés à payer ses factures. L'énergie est aussi un autre problème, on pourrait en parler, il nous reste quelques minutes. Est-ce que... une forme d'autonomie, ça permettrait aussi à une région, peut-être, d'amortir des problèmes d'inflation.
Par exemple, aujourd'hui, on sait très bien que sur le logement, les gens ont des difficultés à se loger. Et donc là, il y a besoin vraiment, là, d'activer des leviers de régulation entre résidence principale et location de courte durée et résidence secondaire, et donc de permettre à la population d'accéder à une résidence principale digne et avec des loyers accessibles, modérés, et tout ça pour que, dans un contexte d'inflation, pour faire moins peser aux ménages des coûts de logement. Donc le budget du ménage, dans ce contexte d'inflation, y a besoin de venir soulager, permettre un accès à un logement accessible, enfin abordable.
Pardon. Alors, logement abordable et puis aussi déplacement abordable, parce que là aussi, on voit les prix des carburants qui augmentent, même si là encore, ils se sont un peu stabilisés. On imagine que dans les quelques jours qui viennent, avec là encore, ça nous ramène à ce qui se passe en Israël. On peut imaginer que le coût du baril de pétrole augmente et qu'on ait une répercussion chez nous. Est-ce qu'il va falloir très vite développer dans les régions? J'ai posé la question à plusieurs interlocuteurs. Je voudrais avoir votre éclairage, Valérie Tabar. Est-ce qu'il faut là aussi accélérer la remise en place de lignes de chemin de fer, investir, prévoir l'avenir finalement, voir à long terme?
Complètement. Enfin, aujourd'hui, la limite aujourd'hui de la planification écologique telle que c'est perçue par le gouvernement Macron, c'est de penser l'électrification des voitures. Mais à un moment donné, nous disons, et nous allons intervenir en session du Conseil régional, donc qui débute demain mercredi jusqu'à vendredi, sur des dossiers mobilité, ce sera ma collègue Aziz Gouaz et le collègue Gaël Briand qui interviendront. Et bien sûr, nous pensons qu'il faut davantage miser, encore plus, sur les dessertes fines, sur le transport en commun et particulièrement du train. Il faut reprendre la dorsale nord-sud, Saint-Brieuc-Auray, parce que c'est quand même incroyable dans cette région, on ne puisse pas communiquer.
Fracture transversale,
il y a complètement une fracture, oui. Donc il faut revenir à ça, il faut redensifier et cadencer, remettre sur les offres existantes, remettre des offres plus cadencées et puis s'attaquer à de nouvelles lignes.
Alors, avec des investissements assez importants, on peut imaginer quand même pour Saint-Brieuc-Auray une ligne qui est fermée depuis de nombreuses années maintenant, une rectification de la ligne, une reconstruction de la ligne peut mobiliser un budget important. Est-ce que ça peut être un pari de la région, justement ?
Oui, alors là, dans le cadre du CPER volet mobilité, du contrat de plan État-région volet mobilité, donc qui va être voté, c'est vrai qu'on peut reconnaître qu'il y a eu une négociation importante avec plusieurs dizaines de millions qui ont été négociés par l'exécutif régional. Donc ça, on le salue, on pense que ça doit aller plus loin, et en effet, nous redisons l'importance des lignes fines, et donc notamment de cette dorsale. Donc il y a des choses obtenues, il faut encore aller beaucoup plus loin dans les années à venir. Mais il faut se redire aussi l'erreur historique d'avoir abandonné ces lignes-là, parce que c'est toujours plus compliqué d'y revenir.
On casse plus facilement qu'on construit,
finalement. Bien sûr.
Il nous reste 2 minutes, m'a fait signe notre réalisateur. J'aurais voulu vous entendre, Valérie Tabar, sur deux sujets. L'un qui est peut-être un petit peu plus local, le conseil municipal d'Illion, dans les Côtes d'Armor, a voté en faveur d'une action en justice contre le film Algue Verte. Alors rappelons que le film Algue Verte, c'est ce film qui a été réalisé à partir de la bande dessinée, du roman graphique d'Inès Leroux sur le problème des algues vertes, particulièrement en Bretagne et en baie de Saint-Brieuc. Il y a Lyon ici. Donc il y a une action en justice qui est lancée pour diffamation publique envers Michael Cosson, qui était le maire de la commune à l'époque, que nous avons reçu ici, qui est donc député aujourd'hui, et la commune de Lyon qui se sent un petit peu salie par le film. Quelle est votre réaction à cette action lancée?
Moi, je voudrais juste dire que j'ai lu dans la presse, hein, je remarque au sein même du bureau municipal, hein, il y a un adjoint qui, en tout cas, la presse relate l'expression d'un adjoint qui, voilà, au sein même du bureau municipal, les conseillers municipaux ne sont pas, les élus municipaux de Lyon ne sont pas forcément convaincus par cette prise de position, au bout du compte, du conseil municipal de Lyon, voilà, de faire une action en justice contre lui. Moi, je n'ai pas encore vu le film, vous voyez, j'ai lu la BD, bien sûr. Je n'ai pas encore vu le film. Beaucoup me disent que ce n'est pas caricatural. Moi, c'est quelque chose auquel je suis très attentive. Hein. Je crois que j'incarne une écologie rurale. Je viens d'un milieu agricole, donc je connais bien. Je suis écologiste, mais vraiment du rural, du milieu agricole. Donc, je suis très très sensible au regard qui peut être des fois, parfois trop éloigné, trop urbain, trop caricatural, stigmatisant, clivant. Là, moi, les retours que j'ai, mais je jugerai par moi-même, me disent que il est plutôt juste en fait dans la manière de restituer cette problématique et aussi toutes les tensions et la complexité aussi du sujet sans juger sur la profession agricole par exemple ou sur les élus.
Tout dernier mot, il nous reste 30 secondes, c'est très rapide, Valérie Tabar. Sur l'Europe, on va voter pour les européennes en juin prochain, juin 2024. Les écologistes sont en ordre de marche, ça peut être le pari aussi de faire plus massivement entrer l'écologie au Parlement européen.
Alors, moi je ne suis pas Europe Écologie Les Verts, hein, mais pour autant, en effet, je suis écologiste. Je voudrais juste dire que je me réjouis de l'entrée de Lydie Massard, donc co-porte-parole de l'UDB, qui est notre premier partenaire politique au sein du groupe Brézaglaise, puisque je suis ensemble sur notre territoire partenaire de quatre élus de l'UDB, donc moi et ma collègue Azilis Gouez. Et donc je me réjouis hein, de cette pontivienne qui est rentrée à la faveur de l'élection de Yannick Jadot. Au Sénat et qui est rentrée au Parlement européen il y a quelques jours. Et d'ailleurs, elle organise le 21 octobre à Pontivy une journée sur l'alimentation. Et j'interviendrai à une table ronde. Il y aura Benoît Biteau et Claude Ruffat qui sont députés européens avec elle. Donc moi, je pense qu'en effet, les écologistes ont une voix à faire entendre sur justement la transformation de nos modèles productifs. Pour ma part, voilà. Avec Ensemble sur nos territoires, nous assumons une économie productive, mais qui doit complètement revoir la donne, c'est-à-dire se réencastrer, se réajuster par rapport aux dynamiques du vivant et par rapport aux écosystèmes.
Valérie Tabar, conseillère régionale, écologiste et autonomiste, membre du groupe Brézaglaise. Voilà, vous aviez encore beaucoup de choses à dire à nous, beaucoup de questions à vous poser. Vous reviendrez, hein, vous le notez. Merci.
Mais oui.
Merci.
Bonne journée.
Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin. Belle journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.